Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Deuxième fin de semaine de novembre. Ouais. Oui, je me sens que c'est la deuxième. Deuxième fin de semaine de novembre 2025. Ici Alex Bergeron et bienvenue au deuxième service du réchaud. Deuxième fin de semaine complète de novembre 2025. Bienvenue au deuxième service sur les ondes de CFAQ 88.3 Sherbrooke et Dochise, 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. On est bien là. Pour l'actualité de cette semaine... mouvementé, encore une fois. Ça devient pléonasme, en fait, de dire que les semaines sont mouvementées de ces temps-ci. Notamment. Le shutdown aux États-Unis le plus long de l'histoire. Donc, Donald pourra se vanter de ça, d'avoir fait dans ses deux mandats une paralysie du gouvernement américain. Et que celui-ci, en 2025, aura été officiellement le plus long de l'histoire. Termes de jours, 45 sauf erreur. Et tout ça pourquoi? Pour pas grand chose. Les démocrates avaient le gros bout du bâton, étaient en train de faire plier les républicains. Parce que tous deux s'obstinaient sur l'adoption du budget et de certaines clauses qui, évidemment, ne satisfaisaient pas les démocrates. Notamment en ce qui a trait la question de la santé. C'est pas juste au Québec, la santé, aux États-Unis aussi. Où on voulait avoir des garanties pour protéger certains pans du. En tout cas, certains pans de ce qui reste d'Obamacare sous Donald Trump. Donc des garanties pour certains citoyens américains. Il était en train de gagner la bataille de l'opinion publique. Quoique ça, c'est quand même acquis là, de leur côté. Les images de Donald Trump qui va faire prêter serment d'allégeance à des soldats où il se fait huer. Puis pas rien qu'un peu par la foule. Au point même que tu le vois dans sa face qu'il les entend, ces huées-là. Même s'il est derrière, dans la loge, derrière sa vitre. Mais qu'il quitte... il quitte le terrain après ça. Donc, que l'opinion publique se renversait, qu'on s'en venait de plus en plus fâché contre Donald Trump. Parce qu'en ce moment, c'était ça. C'était les républicains qui refusaient de discuter, qui étaient du mauvais côté de l'histoire. Mais 8 démocrates dissidents ont fait en sorte que le shutdown s'est terminé parce qu'ils ont décidé de virer leur veste de bord Et c'était maintenant suffisant pour que le shutdown s'arrête. Sous promesse de discuter de santé, mais sans plus, sans ayant de garantie que les trucs allaient être maintenus, que certaines clauses allaient être maintenues, donc qui auraient justifié le fait que ça négociait, que c'était sur pause le système américain depuis tout ce temps-là. Et malheureusement, c'est ça, les 8 démocrates défractaires, mais c'est pas ça le mot, mais les 8 démocrates dissidents ont donné raison aux républicains, et justement, maintenant, c'est leur nouveau leitmotiv de dire « Regardez, on a fait le shutdown, tout ça pour ça, puis les démocrates savent pas ce qu'ils veulent, etc., etc. » Donc, sans nécessairement qu'il y ait un renversement complet de l'opinion publique aux États-Unis, mais disons que tout le monde a eu l'air fou égal au final. Donc, ça pour les États-Unis, sinon, à part de ça, ça continue d'aller moyen. Là. Fait que ça ressemble à ça pour les États-Unis. Et où ça regarde pas bien non plus, c'est au Québec. Puisque la fameuse question des sondages est de retour. On a demandé aux Québécoises et aux Québécois si les élections avaient lieu aujourd'hui. Pour qui voteriez-vous? Et plus rien ne va, surtout pour François Legault. Sondage publié en début de cette semaine par je devine, pour le compte de TVA. TVA Le Journal. Où on a demandé à quel parti accorderiez-vous votre vote? Le Parti québécois est toujours en avance, mais en faisant moins 4. Et ça regarde pas bien pour Paul. Donc, ils sont maintenant à 32, étaient à 36 au dernier sondage, donc le mois dernier. 4 points en moins. Et ça, c'est avec, bien sûr, la possibilité de déclencher un référendum au premier mandat du Parti québécois. À même la formation du Parti québécois dans les derniers sondages, les 2/3 voteraient pour et le 1/3 voteraient contre parmi les électeurs du Parti québécois. Ce qui laissait supposer deux choses. C'est-à-dire qu'un référendum dans le premier mandat serait problématique, mais surtout que les gens qui vont voter pour le Parti québécois ne voteront pas nécessairement pour la tenue d'un référendum autre que la possibilité de sortir la CAQ des régions. Et c'est un aspect qui est plus à négliger depuis plusieurs élections. C'est les votes contre l'autre formation, donc pas nécessairement un vote en faveur du parti qui est porté au pouvoir, ou en tout cas du parti pour lequel on vote, plus qu'un vote contre le candidat de l'autre formation qu'on ne veut pas voir gagner. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer qu'en ce moment, ce soit 2/3, 1/3 parmi les électeurs du Parti québécois, qui normalement devraient tous être en accord avec la tenue d'un référendum, qui plus est, voter oui à ce même référendum-là. Mais comme en ce moment, les appuis du Parti québécois ne sont pas tous avec des souverainistes, plus qu'avec du monde qui veulent voter contre François Legault et son équipe, que ça aussi, c'est un facteur à prendre en considération et qu'on ne dirait pas que c'est pris en considération. Comme il n'y a pas en ce moment de réforme du mode de scrutin par la Coalition Avenir Québec, comme ça avait été promis, la CAQ est toujours à 0 député, avec 17 % des intentions de vote, parce qu'ils vont terminer 2e derrière le PQ dans énormément de régions. Ceux pour qui ça peut gagner un petit peu, c'est le Parti libéral qui, lui, fait maintenant 27, un ajout de 2 %. pas nécessairement non plus grâce à l'arrivée de Pablo Rodriguez, plus que des gens qui ont peur de la tenue d'un référendum et qui vont délaisser la CAQ ou Parti conservateur pour que ça soit la véritable alternative au PQ, le Parti libéral, parce que comme on reviendrait dans cette époque où c'était le camp du oui contre le camp du non, ben ça, ça veut ainsi, pour ainsi dire le Parti québécois contre le Parti libéral. Parce qu'en ce moment, François Legault, techniquement, la CAQ est formée autant de fédéralistes que de souverainistes. Le Parti québécois, le Parti Québec solidaire serait techniquement, sur papier, avec le Parti québécois, si le Parti québécois veut ouvrir ses horizons et accepter des gens avec eux autres dans le camp du oui, ce qui ne semble pas parti pour ça. Parti Québec solidaire, en ce moment, qui fait 8%, donc qui reprend un petit peu du poil de la bête, mais pas suffisamment pour conserver tous ses députés. Ce 8%-là, ben, c'est surtout à Montréal. Et malgré le fait que, c'est vrai, malgré le fait que Sol Zanetti a été choisi comme co-porte-parole masculin, bien que si jamais il y avait cataclysme et que Québec solidaire prenait le pouvoir, ce serait Ruba Gazal qui deviendrait la première ministre et non pas Sol. En ce moment, dans la région de Québec, Sol est en difficulté. Sa circonscription ne lui est pas favorable pour l'instant. C'était pas le cas non plus d'Étienne Grandmont qui était dans la circonscription d'à côté. Mais c'est pas gagné pour les deux candidats de la Ville de Québec. Sherbrooke, ça va dépendre qui va remplacer Christine Labrie qui a annoncé son départ. Mais pour l'instant, il y a des chances que le Parti québécois gagne aussi Sherbrooke. Quoique, faut le rappeler, normalement, si tout va bien, Pablo Rodriguez devrait se présenter dans la circonscription de Sherbrooke. C'est ce qui avait été annoncé à un certain moment, parce que semble-t-il que Pablo aurait passé sa jeunesse site. Mais reste à voir s'il fera réellement le choix de Sherbrooke. Quoique, historiquement, c'est arrivé qu'on ait déjà voté pour un certain Jean Charest, qui était premier ministre, qui était chef du Parti libéral, et qui a déjà été aussi au Parti conservateur du Canada, qu'on votait pour lui aussi à Sherbrooke. On exclut la personne qui parle parce que j'avais pas l'âge. Parce que, non, c'est vrai, j'ai sa dernière élection à Jean Charest, j'avais pu voter. C'est ma première élection provinciale, le départ de Jean Charest? 2012? Je pense que oui. Fait que j'ai voté à l'élection du départ de Jean Charest. Et finalement, ben, c'était le candidat du Parti québécois qui avait gagné, Serge Cardin, ancien député du Bloc québécois, qui avait été tassé par la vague orange et qui s'était représenté au PQ l'année d'après et qui l'avait emporté. Il me semble que c'était Serge Cardin. Voilà, les gens s'étaient excusés en votant pour Serge Cardin. C'est ce que je racontais toujours, mais oui, c'était ça. Donc, temporairement, le PQ avait déjà été au pouvoir à Sherbrooke. C'est surtout libéral, surtout conservateur. Fédéral, ben là, présentement, c'est libéral depuis une petite trollée. Depuis le départ de Pierre-Luc Dussault du NPD. Et le plus heureux là-dedans, ben, c'est Éric Duhaime qui se maintient à 14 % Toujours des gains ou à peu près en Beauce, la rive sud de Québec. Peut-être quelques circonscriptions à Québec si la lutte n'est pas trop serrée ou tout dépendamment des candidats qu'il va être capable de trouver pour la région de Québec et contre qui les gens du Parti québécois, ça pourrait être serré. Parce que le tableau de la Ville de Québec, ça va surtout se jouer entre le Parti québécois et le Parti conservateur, tandis que pour la région de Sherbrooke, on pourrait s'attendre peut-être un petit peu plus à des duels avec le Parti libéral, peut-être encore un petit peu la CAQ, quoique ça s'en vient tranquillement, pas vite, troisième et quatrième place, mais le PQ devrait performer. Il y avait entre autres la médecin Mélissa Généreux qui avait tenté de se faire élire avec Québec solidaire dans Saint-François la dernière fois. Elle a terminé deuxième derrière la CAQIS. Mais semblerait-il, c'est pas confirmé, que le PQ l'aurait approché pour l'avoir dans ses rangs. Donc, on aurait une autre possibilité de ministre de la Santé dans la région. On se souviendra du docteur Hébert qui avait tenté Sherbrooke et qui avait passé proche. Mais en tout cas, qui aurait été pour la santé. L'avais-tu? On dirait, je me souviens pas. En tout cas, qui avait essayé de se présenter pour le PQ. Non, il y a Christian Hébert qui avait réussi, mais c'était pas dans Sherbrooke. C'est Christian Hébert en plus. Je vois de mémoire un matin. Hein. Mais sinon, la ligne de sondage qui était la. Revenons à nos moutons. La ligne de sondage la plus décevante pour François Legault, probablement, ce qui a donné droit à des éclats de joie malgré tout et malgré que ça soit interdit à l'Assemblée nationale et qui a mis un petit peu de mauvaise humeur. Nathalie Roy, la présidente de la Chambre, c'est que les caquistes ont tenté de réapprouver leur chef, même s'il devient de plus en plus. Qu'il deviendra de plus en plus la cause de la défaite de la Coalition Avenir Québec. François Legault, on a posé la question: êtes-vous satisfait du gouvernement et de M. Legault? 1% des électeurs disent qu'ils sont très satisfaits du travail de M. Legault. 21% disent qu'ils sont plutôt satisfaits, pour un total de 22%. Donc, il a reculé d'un autre pourcentage puisqu'ils étaient à 23 en septembre dernier. Et ce petit point-là est allé aux insatisfaits. 27% de plutôt et 44% de très insatisfaits. Donc, presque un électeur sur deux, ou un sondé dans ce cas-ci, plutôt pour le sondage, presque un sondé sur deux disent être très insatisfaits du travail de François Legault. Et il faut le rappeler. Il ne le dit plus, parce qu'évidemment, ce critère-là n'est plus rempli, mais il disait qu'il allait rester si les Québécois avaient encore confiance en lui. Et vraisemblablement, ce n'est plus le cas. Peut-être est-ce que lui aussi, comme les Trudeau, ira prendre une marche dans la neige pendant le temps des fêtes et qu'au retour des fêtes, il annoncera qu'il ne reviendra pas. C'est la supposition que beaucoup de spécialistes font. Mais les autres spécialistes, l'autre moitié de spécialistes, dit aussi que François Legault est tellement orgueilleux, ce monsieur-là est tellement orgueilleux que malgré le fait qu'il s'en va vers l'élimination de son parti, il va rester à la tête du bateau qui coule. Fait c'est à un certain honneur de sa part de ne pas quitter le navire comme tous les autres vont faire après les fêtes, mais que, ultimement, il sera lui aussi la perte de son propre parti qui, parce que le mode de scrutin n'a pas été réformé comme il l'avait promis, verra l'élimination complète de son parti parce qu'il terminera deuxième dans la majorité des circonscriptions où il aurait pu, avec un mode de scrutin proportionnel, s'en tirer avec une dizaine de députés, malgré que ça soit plus les 80, là, ils sont rendus 80, je pense, ou 79 même, avec la députée démissionnaire de la CAQ qui veut s'associer à Éric Duhaime sans pour l'instant devenir conservatrice, le Maïté Blanchette Vézina à Rimouski. Qui veut représenter le 5% qui avait voté à Éric Duhaime en devenant la porte-parole d'Éric Duhaime à l'Assemblée nationale et en lui ouvrant les portes. Donc, elle deviendra la Claire Samson 2.0, un peu plus jeune et peut-être moins de 20 dans le corps. C'est pas fin ce que je viens de dire, mais en étant plus jeune et en ayant malgré tout, en ne voulant pas s'associer à Éric Duhaime, tout en s'associant à Éric Duhaime, elle voudrait lui ouvrir tout grand les portes de l'Assemblée nationale, comme l'avait fait Claire Samson la dernière fois. Donc, Maïté Blanchette-Vézina sera la porte d'entrée et la clé pour débarrer l'Assemblée nationale à Éric Duhaime, qui pourra arrêter de chigner pour la prochaine année parce qu'il a réussi à en trouver une suffisamment fâchée contre François Legault pour répéter le processus. On fait une courte pause au retour. La suite de l'actualité de cette semaine sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Nouvelle de la semaine dernière, mais que, bon, finalement, j'avais plus de sujets que prévu et que j'avais un petit peu omis, mais qui revient un petit peu quand même cette semaine, quoique pas beaucoup, parce que ben, c'est déjà encore terminé. Le journal de Sherbrooke, journal d'intelligence artificielle qui a littéralement copié du contenu, d'ailleurs, pour créer le sien. Il s'est fait un peu anéantir par l'entièreté de la presse québécoise le 3 novembre dernier, c'était là qu'il y avait la dernière publication qui avait été faite, du moins sur la page Facebook, mais je viens d'aller voir sur le site, puis il n'y a pas de nouveau contenu non plus, sauf deux petits articles qui ont été publiés cette semaine. Donc peut-être est-ce que le Tim Gaudreau, qui avait été reconnu coupable notamment d'avoir battu son ex-conjointe. Peut-être est-ce que finalement il s'est réellement trouvé une passion pour l'écriture, parce que juste deux articles en une semaine fait beaucoup plus de sens que d'écrire 15 articles par jour grâce à l'intelligence artificielle. Mais être revenu pour seulement dire « les gens sont méchants, sont contre moi, moi je veux être un journaliste anonyme et les gens me laissent pas être anonyme », écrire des trucs, voler du contenu et rester anonyme, c'est un petit peu difficile. Et tout ça également en disant qu'il n'avait jamais copié de texte et que c'était des mensonges ce qui avait été raconté. Le problème, c'est que la radio que vous écoutez ici à Sherbrooke, c'est FAQ. On s'est retrouvé parmi les articles du faux journal de Sherbrooke. Et c'est littéralement juste un communiqué qui a été envoyé, qui a été recopié tel quel. Sauf certains passages où on disait qu'on allait discuter des enjeux de la région pendant la semaine de la radio et qu'il y avait des spectacles payants à une petite salle. Quand les spectacles étaient gratuits et se tenaient à la petite salle de l'Université de Sherbrooke, à la petite salle du Centre culturel. Donc, les informations, en plus, n'étaient pas bonnes et à moitié vraies. Fait que ce journal-là ne vaut pas grand-chose pour vrai. La petite histoire, c'est que dans les dernières semaines, il y a eu une petite montée, mais parce que ça a été dénoncé, ça a été un petit peu contrecarré de faux journaux ou de faux liens d'information qui partagent du contenu généré par l'intelligence artificielle ou retranscrit d'articles qui existent, retravaillés, changer certaines phrases pour donner l'impression que c'était du contenu original. Où le problème commençait à grandir, c'était que du côté du journal de Sherbrooke, on avait inventé des journalistes. Parce que probablement que Tim Gaudreau était tout seul à faire ça, ou il y a peut-être un ami qui fait ça avec lui, on ne sait pas, mais qu'il y avait tellement une petite équipe qu'on a inventé des journalistes. Donc, il y avait une journaliste art et culture, une directrice de production qui a fait ça dans le milieu depuis 35 ans, un journaliste aux affaires judiciaires, un peu partout, là, tu sais, les faits divers. Tout le monde avait des pseudos, sauf que lorsqu'on faisait des recherches avec ces prénoms et ces noms-là, ils n'existaient pas. Surtout la madame Diane Cloutier ou Diane Côté, une affaire de même, la rédactrice en chef de 35 ans d'expérience. Aucun article d'elle, nulle part dans l'entièreté des médias québécois, mais ça fait 35 ans qu'elle fait ça, par exemple. Et où ça avait blessé le plus, où la supercherie a été découverte assez facilement, c'était que il y avait un journaliste, le journaliste à la Tribune, là, je ne veux pas les mélanger. Tommy Brochu, du journal La Tribune, qui couvre notamment le judiciaire, s'est vu, ou en tout cas, on a montré la nouvelle à Tommy Brochu, qu'il y avait un certain Tommy Brodeur qui écrivait pour le journal de Sherbrooke. Journal de Sherbrooke, d'ailleurs, qui copiait son logo de La Tribune, mais ça doit être du hasard. Et ce fameux Tommy Brodeur-là, était à peu près Tommy Brochu, mais avec le visage un peu plus rond puis un petit peu moins de cheveux. Mais c'était le même gars. Au point où même Tommy Brochu, t'es pas sûr si c'était lui. Fait que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en plus, les articles de Tommy Brodeur étaient extrêmement ressemblants à celui du journaliste de La Tribune ici. L'équivalent du Soleil pour les gens de Québec, au Coop de l'information. Fait que là, il y a des premiers drapeaux qui se sont levés, notamment le 107.7, ici la station Cogeco, 107.7 FM, a commencé à un peu enquêter là-dessus et s'est rendu compte que c'est ça. Les articles étaient proposés par le journal de Sherbrooke, sur Facebook notamment, étaient pas bons. était générée par l'intelligence artificielle parce que les images des vrais articles, donc en plus, ils ont trouvé des images des photographes de la Tribune sur le site du journal de Sherbrooke ou ailleurs, mais parce qu'ils peuvent, ils pouvaient juste aller chercher une photo, règle générale sur Internet, mais comme pour eux autres, les règles ne s'appliquent pas et le code de déontologie, ça leur importe peu. Bien, évidemment, ils ne créditaient pas les photos parce qu'ils étaient passés dans l'intelligence artificielle. Donc, ça a fait également en sorte, bien, les quatre candidats de Sherbrooke ont été passés dans l'intelligence artificielle pour la photo de groupe. Pourquoi? Aucune idée. Mais le plus troublant là-dedans, c'est qu'il y a eu une disparition d'enfant et que l'enfant disparu, la photo qui avait été fournie aux médias, a été modifiée par l'intelligence artificielle sur le site du journal de Sherbrooke. Donc, il y a des règles d'éthique qui n'étaient pas respectées. Selon Tim Godreau, c'est parce que les journalistes veulent écrire avec des pseudonymes et non pas écrire avec leur vrai nom. Mais quand on est journaliste et qu'on écrit sur des sujets, on n'est pas censé avoir honte ou être gêné de faire du journalisme. On est censé apposer son nom. Et de toute façon, dans les règles de la FPJQ, dans les règles de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, c'est interdit. On ne peut pas écrire sous un nom de plume pour se protéger son anonymat parce qu'on ne veut pas se faire reconnaître ou peu importe la raison. Donc, mon dissent à moi, c'était que Tim Godreau écrivait l'entièreté parce que qui veut faire de la fausse nouvelle par intelligence artificielle pour espérer gagner des clics? Et où justement ça a fait jaser, c'est que le journal de Sherbrooke achetait de la publicité sur Facebook, donc que ses articles étaient promus sur les Facebook de tout le monde, mais c'est pas censé. Parce qu'il faut se rappeler qu'en ce moment, on est toujours sur le barrage de Meta. Donc, Meta est supposé barrer les médias d'information et les radios parce que c'est de l'information selon eux. Les radios universitaires sont incluses là-dedans, les pages officielles du moins. Mais ça fait en sorte également que c'est pas normal qu'en ce moment, le journal de Sherbrooke soit capable de publier sur Facebook sans être barré par Meta, ils ne sont pas encore barrés par Meta, parce qu'ils sont un « média », entre gros guillemets, il aurait dû être barré d'office. Mais comme Meta a l'air de se rendre compte que ce n'est pas un vrai média ou qu'il n'a pas reçu encore assez de plaintes ou ça n'a pas été encore détecté par l'intelligence de Meta, ben ils sont encore actifs. Mais, de manière rassurante, il y a deux articles qui ont été publiés depuis les deux dernières semaines qui semble être authentique. Là, j'ai survolé rapidement, à moins que l'intelligence artificielle a généré une couple de phrases là-dedans. Et ironiquement, ben, ça dit qu'on est maltraité au journal de Sherbrooke parce qu'on veut être anonyme et qu'on ne veut pas nous autoriser à faire du journalisme différent et que l'intelligence artificielle va détruire le métier de journaliste, mais qu'ils sont les premiers à détruire le métier de journaliste en utilisant l'intelligence artificielle. Bref, donc, faites attention. Si on peut se remémorer ce qu'on se disait en 98 quand on allait sur Internet, ne pas se fier à ce qu'on voit sur Internet, ben dans les cas comme le journal de Sherbrooke qui cherche uniquement l'appât du gain, les clics, à faire du profit sur cette plateforme-là, puis de toute façon, ils seront incapables de vendre la publicité à quiconque va juste googler le journal de Sherbrooke et va tomber sur les articles de Radio-Canada, du 107.7 et des autres médias qui en ont parlé, bien, la Tribune aussi, qui en ont parlé pour dire que c'était de la grosse frime et que c'était ni plus ni moins qu'un arnaque. Bien, ils feront pas d'argent avec ça. Fait que peut-être qu'ils vont faire quelques clics grâce à Facebook, mais parce que des gens ne vont pas nécessairement faire attention. Ils ont des commentaires parce que justement, on en a parlé en mal de cette plateforme-là. Mais en tant que tel, si on recommence à produire des articles logiques ou des articles qui se peuvent, entre guillemets, ben on va tout de suite l'analyser et voir qu'est-ce qui a été copié de où et ça provient de où. Donc, de toute façon, c'est voué à disparaître. C'est pas le premier. À Montréal, il y a eu le Montreal Minute qui a existé aussi, qui copiait la typo du Gazette, de la Gazette, et qui faisait de la nouvelle par intelligence artificielle. Donc, essentiellement, si vous voyez de la nouvelle par intelligence artificielle sur Facebook, ça vaut pas la peine de cliquer parce que c'est pas supposé être sur Facebook. On est encore barré sur Facebook, les médias, par Meta, Donc, il n'est pas supposé d'avoir d'articles de Radio-Canada, de TVA, du journal, des coop, de peu importe, de la presse. Donc, si le journal de Sherbrooke vous atteint avec les publicités, c'est pas supposé et c'est pas nécessairement rassurant s'ils continuent à mettre de l'argent là-dedans en pensant qu'ils vont être capables d'en faire un petit peu. Courte pause, au retour, la suite du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Bonne annonce tout de suite pour une nouveauté qui prend l'affiche aujourd'hui. C'était un remake, je ne savais pas, mais c'est maintenant avec la nouvelle tentative, le nouvel espoir d'acteur de film d'action, Glenn Powell, le jeu du défi.
Arrêtez de filmer!
Ben Richards, 35 ans. Marié, un enfant gravement malade.
Il nous faut de quoi payer un docteur de toute urgence.
Ben, fais attention.
Situation professionnelle, blacklisté. Mais il te reste une solution. C'est l'émission la plus regardée du pays.
La soif de chance est notre privilège!
Candidats à ce jeu ne reviennent jamais.
J'ai pas l'intention de me faire tuer. Alors lâchez-moi le cul deux fois.
Je le savais. T'es fait pour être le vainqueur. Les règles sont simples. Survivre 30 jours pendant que tout le pays te traque sans répit. Et tu sors ta famille de la misère pour de bon.
Je vais revenir. Et je vais brûler ce bâtiment. Je vous le promets.
Voilà ce que je veux entendre.
On est américains, bon Dieu de merde! Et on tolère pas qu'on vienne nous faire chier! Ouais! Chasse! À mort! Arrêtez de filmer!
Tu t'es déjà demandé. Si ce jeu était truqué,
on va bientôt le savoir.
Hé, mon gars, t'es à la télé.
Retour à l'envoyeur.
Ah ah, je suis pas encore tué. Fast rat crevé.
Hé, mes pousses !
T'es fou ou quoi ?
Alors, Running, le 7, non, OK, ils l'ont repoussé d'une semaine, ça c'est drôle. Donc, The Running Man, dans un futur proche, c'est l'émission télévisuelle la plus regardée, une compétition mortelle où les participants appelés les Runners doivent survivre pendant 30 jours, traqués par des assassins professionnels. Chaque mouvement est diffusé devant un public assoiffé de sang et chaque jour rapporte une récompense plus importante. Prêt à tout pour sauver sa fille malade, Ben Richards, Glenn Powell, issu de la classe ouvrière, est convaincu par le charmant, mais impitoyable producteur des émissions Dan Killian, Josh Brolin ici, de se lancer dans le jeu en dernier recours, mais la résistance, l'instinct et le courage de Ben font de lui un favori inattendu des fans et une menace pour le système tout entier. Alors que les audiences montent en flèche, les dangers montent en flèche et Ben doit déjouer non seulement les Hunters, donc les chasseurs, mais aussi la nation accro à le voir ou gagner ou perdre. Et ben, c'est un remake d'un film des années 80 avec Arnold Schwarzenegger. Il y a d'ailleurs un clin d'œil, un petit clin d'œil à Arnold dans le film de 2025. Pourquoi ça s'appelle Le jeu du défi? C'est parce que c'était le nom aussi en 87 au Québec. Fait qu'ils ont comme juste repris le titre comme on fait habituellement pour les remakes au Québec, on garde les titres originaux québécois de l'époque. Donc, c'est pour ça que Bételgeuse existe. C'est à cause du film des années qui a été traduit au Québec à l'époque. Et ce qui est drôle, c'est que dans le film de 87, l'action se déroule en 2017-2019. Tandis que dans le film avec Glenn Powell, on ne sait pas trop c'est en quelle année, mais ça serait dans un futur proche, dystopique, où la télé-réalité règne en roi et maître. Il y a une belle parodie des Kardashians aussi au travers de ça et des Desperate Housewives de New York ou de whatever où. Donc, c'est ça. Ça se veut une critique de l'Amérique actuelle, mais à une époque futuristique-ish. Parce qu'il n'y a pas tant d'éléments si futuristes que ça. Fait que ça pourrait se passer genre en 2040, là, après l'effondrement de l'économie américaine, comme c'était le cas en 2017-2019 dans le premier Running Man. Ça me fait vraiment rire que ce soit en 2019 que ça se passe, le film. Donc, le premier, à tout le moins. C'est pas un mauvais film, c'est pas un film à aller se garrocher non plus. Comme je disais, Glenn Powell, ça se veut être l'espèce de nouveau, le nouvel acteur de film d'action, là, un peu comme l'a déjà été Bruce Willis, ou l'a déjà été justement Arnold Schwarzenegger, là, qui il est le gentil qui doit affronter les méchants, qui d'un système corrompu politique qui n'est pas correct avec les pauvres gens, etc. Fait que c'est pas un scénario extrêmement innovant. On se rappelle, c'est le remake d'un film des années 80. Fait que c'est sûr que le scénario va ressembler à ça. La fin n'est pas particulièrement satisfaisante non plus. Là, c'est le genre de fin que, justement, en 87, on fait comme « Ah ah! Bien fait pour toi! » Mais que dans celui-là, tu sais, il y a comme deux fins. La première fin aurait été correcte, mais il fallait absolument faire une deuxième fin qui... Ah oui, le méchant est vraiment méchant et il mérite de mourir. Fait que, tu sais, du vulgacheur, mais tu sais... C'est un film des années 80. Fait que c'est sûr que le méchant, à la fin, il s'en sort pas gagnant. Je vous le divulgage, les films des années 80, là, en ce moment. Là. Fait que, tu sais, il faut que le bien triomphe du mal. De toute façon, on est dans cette époque-là du cinéma américain que le bien doit triompher sur le mal, là, comme Gladiator 2. Là, Gladiator 2, c'est ça? Le nouveau Gladiator l'avait été, là, c'était ça. C'était le bien qui triomphe du mal, là, parce que le mal, c'est, ils sont tous méchants, puis il faut les tuer, etc. Fait que c'est un peu ça. On est revenu à cette époque-là du cinéma américain qui, de toute façon, est un peu forcé par Donald de vouloir avoir le tout, là, d'affronter le gouvernement corrompu au travers des films. C'est ça, Glenn Powell, c'est l'espèce d'acteur qu'on essaie de nous vendre comme étant le nouvel acteur de films d'action. Là. Il avait joué dans Tornade 2. Fait que là, il joue dans le remake de Running Man des années 80, qui était d'ailleurs une adaptation d'un roman de Stephen King, mais qui n'était pas signé Stephen King. Je ne sais pas si Stephen King en avait honte, mais en tout cas, c'est dans un futur utopique. Ça, c'était signé à l'époque Richard Bachman. Mais que finalement, c'est Stephen King, mais avec un faux nom. Fait que c'est ça. C'était pas un mauvais divertissement, mais c'est pas à se garrocher des murs non plus. La preuve, on était quatre dans la salle hier. Fait que c'était le premier soir. Ça sort techniquement aujourd'hui, vendredi, au moment d'enregistrer. Fait que c'est la première fin de semaine. Mais c'est ça, là, pour avoir regardé les réservations des jours à venir, c'est pas ça le comble non plus. Fait que puis c'est pas parce que la publicité n'existe pas de ce film-là. Là, j'avais vu la bande-annonce de ce film-là en allant voir d'autres films un peu plus tôt cette année. Fait que, s'il est annoncé, est-ce qu'il n'y a juste pas d'intérêt tant que ça pour un autre film d'action un peu dystopique? Pas nécessairement, mais c'est ça. Un peu resté sur la fin. Il y a des bonnes lignes, il y a des trucs qui sont drôles. Au sens où c'est satirique, hein? Fait qu'on, c'est une parodie du système vers lequel les États-Unis pourraient s'en aller, de « on est les meilleurs, tout le monde sont des cons ». Mais en même temps, c'est encore ça, c'est les deux classes, les très très riches et les très très pauvres qui sont séparés par un mur mitoyen à Los Angeles où se déroule l'action. Je pense que c'est Los Angeles, mais en tout cas, il se promène un petit peu à travers les États-Unis aussi, mais c'est pas aussi dystopique dans les autres villes que dans le genre de Los Angeles où ils sont dans le film, en tout cas, je pense. Je dis Los Angeles, mais je suis même pas sûr. Ça pourrait être genre Miami, puis on le saurait pas. C'est pas vraiment identifié. Mais voilà, donc un futur dystopique où la télé-réalité règne en roi et maître, les autos intelligentes, tu peux regarder la télé dedans et que les riches pensent qu'ils sont des bonnes personnes en crachant sur le petit peuple. Donc cette dénonciation du système capitaliste encore aujourd'hui. Fait que c'est ça, ça fait l'épreuve du temps aussi que c'est un scénario des années 80. Puis comme je le disais, il n'y a pas tant de mise à jour au goût du jour. T'sais, même les caméras, c'est pas des drones. Fait que tu sais, il n'y a comme pas de technologie récente tant que ça. Peut-être les ordinateurs dans les lunettes. Fait que c'est comme un genre de méta, mais j'ai l'impression qu'il l'avait aussi dans le film des années 80. Fait que tu sais, il n'y a comme pas de véritable nouvelle technologie comme on pourrait voir aujourd'hui. Il n'y a pas de trucs super extraordinaires non plus. Fait que c'est ça, ça. On reste sur notre fin un petit peu. Ça, c'est un excellent film de dimanche après-midi à nouveau. Le jeu du défi. Là. Fait que, surprenamment, ils n'ont pas passé celui qu'Arnold Schwarzenegger dans les dernières semaines. Ou s'ils l'ont passé, je l'ai manqué. Pardon. Mais c'est ça. C'est un bon film d'après-midi. À la télévision, quand il n'y a pas grand-chose et qu'il neige dehors, ça pourrait être une belle option. Sinon, pour les plus passionnés de cinéma, d'aller le voir sur grand écran. Ça peut être sympathique, mais c'est un 2h18, je pense même, qui est un petit peu longuet, quoique pas tant non plus. Il n'y a pas de... J'ai pas vu vraiment... Ben, peut-être un peu, mais pas tant de scènes qui auraient pu être coupées pour retrancher un peu le film. On regarde pas nécessairement ça monte. Ça montre, mais c'est ça, c'est correct, sans plus. Fait que le jeu du défi, The Running Man, la nouvelle version, qui semble être à peu près telle quelle du film des années 80. Donc, prends l'affiche cette fin de semaine. Au retour, la conclusion de l'émission de cette semaine sur les ondes de Stéphane, sur les ondes de Chiz. Parlons-en de ce gala de la disque donc, qui avait lieu la fin de semaine dernière, le gala de Pierre-Yves Roy des Marais, le grand gala. Et pendant la semaine, c'était celui de Saramé, le premier gala de la disque. Et ben, c'est ça, Lou Adriane était nommée, elle gagnait, sauf genre éclairage de spectacle, où c'est Élisa Pi, je pense, qui l'avait remporté. Mais tu sais, elle a gagné littéralement toutes les nominations dans lesquelles elle était nommée pour cet album-là, Journal d'un loup-garou. Apprécié de la critique, apprécié des pairs. Tout le monde a aimé cet album-là. Et il est bon, cet album-là. C'est pas compliqué, il est bon, ce CD-là. S'il y a des CD, parce qu'aujourd'hui, en 2025, il n'y a plus de CD. Il y a des vinyles, mais il n'y a pas de CD. Blague à part, c'est ça, c'est que comme à chaque année, ben malheureusement, Lou Adriane commence à jouer dans les grosses radios, commence à jouer à 9h le soir à Rouge FM et à Énergie, fait que les gens, si ça donne, qu'ils s'intonisent les postes, peuvent l'entendre ou nous sélectionnent nous à la place et l'entendre à des heures qui se peuvent, genre 11h, 11h, midi moins 10 à Sherbrooke et à Québec aussi. Et malheureusement, ben, ça donne des commentaires désobligeants sur Internet de c'est qui elle, pourquoi qu'elle gagne, c'est quoi son fame, je connais pas, son linge et lettre. Fait que c'est les commentaires habituels de madame et de monsieur fâché qui ont pas écouté de la musique pour vrai depuis les 15 dernières années, que leur dernière grosse découverte c'était Kane en 2005. C'était pas Boom. C'était qui avait dit que... En tout cas, quelqu'un de cette époque-là qui avait dit que la dernière bonne affaire qui était sortie dans les radios, c'était Kane, justement. Fait que... Non, c'est... Puis qui croit encore qu'Éric Lapointe mérite d'être sur scène. Fait que... c'est triste que... Parce que, c'est ça, c'est des nouveaux artistes, sont jeunes. On s'intéresse pas à ce qu'ils font, mais... L'album est bon, pour vrai. T'sais, c'est pas juste parce qu'on la joue, nous, dans les radios universitaires ou dans les radios communautaires, qu'on prêche pour notre paroisse. C'est réellement un bon album. Elle mérite ses 12 trophées qu'elle a obtenus au gala de la disque, aux deux galas de la... aux deux galas de la disque, l'industrie, puis celui de dimanche dernier. C'est pas volé. Là, c'est sûr que c'est dommage pour les autres, mais la compétition était forte. Sont montés également sur la scène lors de ce gala-là. Et à sa surprise, lui aussi, Pierre Lapointe, artiste de l'année, J'adore Pierre Lapointe, mais il me semble qu'on ne l'a pas vu tant que ça l'an dernier. Il me semble qu'il était en France. Fait que je ne sais pas comment il a réussi à gagner le trophée de l'année, mais bravo à lui. Sinon, Elisapi a remporté également artiste autochtone de l'année, comme je le disais, pour les prix techniques, elle l'a également emporté. Puis sa catégorie aussi, qui n'est pas tout à fait, est pas la même que celle de Lou Adriaan. Fait que elle avait emporté pour son dernier album et son dernier spectacle également. Le dernier trophée possible des Cowboys fringants a été remporté pour Pop Royal dans Succès populaire. Les deux frères, par contre, ont remporté groupe de l'année. Billy Dupage est la révélation. Et tout le reste, c'est Lou Adriaan qui est monté à la grande surprise. Ah, j'oubliais, Alyosha Schneider, artiste rayonnement international, donc celui qui a fait le tour de l'Europe, lui aussi, pour promouvoir son album. Alyosha et les filles sont belles et les filles sont belles, c'est lui. Donc ça c'était pour le gala de dimanche. Sinon à l'autre gala, celui de celui sur Télé-Québec, celui avec Antoine Corriveau, mais animé par Sarah May. Notamment Claude Pelgag a remporté avec Abracadabra un autre bon album. Pour l'album country, c'est Matt Lang. L'album anglophone, c'est Matt Lang. Pierre Quanders a remporté pour Bilingue et autres langues. Lou Adriaan, choix de la critique. C'est Guylaine Tanguay qui l'a eu pour l'album country. François Dompierre au classique, avec podcast au folk. Kimoudjouit pour langue autochtone. Thaïs pour musique électronique. Viviane Audet pour instrumental. Pop, Lou Adriaan. Soulja a eu le rap. Rock est allé à Bon Enfant. Spectacle de l'année, Matt Lang. Et spectacle d'humour, Mégane Brouillard. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il reste encore une catégorie humour, même si la catégorie de DVD n'existe plus. Est-ce que finalement, la catégorie de DVD n'existe plus? Non, la catégorie de DVD n'existe plus. Parce que jusqu'à tout récemment, il y avait encore meilleur vendeur de DVD. Puis ça allait, je pense, à Arthur l'Aventurier, parce que c'était comme le dernier à faire encore des DVD pour ses spectacles pour enfants. Mais ça faisait sourire que cette catégorie-là existait encore. Ça semblerait qu'elle n'existe plus cette année. Voilà pour ça. Donc, tour extrêmement rapide, mais les deux galas se rattrapent encore. Je pense encore pour un court temps sur ici, tout.tv pour le gala principal et Télé-Québec pour le gala, l'autre gala. C'est là que ça se termine pour cette semaine. Merci pour l'émission du deuxième service. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 511 du réchaud, ici même, au 88.3 CFAQ et chez 94.3. À la semaine prochaine. Salut.